Alors, nous en étions arrivés au paragraphe de l'entrée en Canaan, l'implantation en Canaan. Alors, j'ai mis implantation plutôt que conquête de la terre promise, parce qu'on va voir
Pas
que
polémique.
c'est un peu. Voilà, alors grand A la conquête, hein, puisque c'est le terme reçu. Alors, j'ai mis petit a l'entrée en Canaan. Alors, au XVe siècle, Antechristum, ou Antechristum, Canaan.
Mais non, mais on dira before Christ.
Oui, c'est ça. BC, moi je mets Antechristum, en fait je mets en latin. Canaan, donc ce qui va devenir la Palestine en gros, était encore peuplé d'un mélange de Hyksos, ce peuple un peu venu d'Asie mineure, etc., et de Hurrites, les Hurrites originaires de Mésopotamie. Et au siècle suivant, il y a les invasions de ce qu'on appelait les peuples de la mer, qui ont aussi, vous vous souvenez, envahi l'Égypte et qui sont aussi installés en Palestine. Et ce sont des peuples venus, semble-t-il, d'Europe. En fait, c'était au moment des invasions. Vous savez, les Doriens, là,
En Grèce.
c'est des peuples venus d'Europe qui sont installés en Grèce ou en Asie mineure, vous pensez à Troie, etc., et qui ont poursuivi leur chemin. Enfin, comme ils avaient des bateaux, ils sont arrêtés là où ils pouvaient. Et notamment, c'est probablement que les Philistins sont un de ces peuples de la mer. Donc, il s'installe en Palestine, vous voyez, quelques siècles avant l'arrivée des Hébreux. Et là, ils font ce que font quasiment tout le monde à cette époque. Ils forment une confédération de cités-États. Et souvent, dans le domaine religieux, il arrive souvent que les peuples envahisseurs n'imposent pas nécessairement leur religion, mais alors soit ils procèdent au syncrétisme avec les religions déjà présentes, mais comme souvent il y a des divinités, comme je disais, chthoniennes, bah, finalement on prend la divinité du lieu parce qu'elle est attachée au lieu, vous voyez. Donc c'est intéressant l'annexer en quelque sorte. Alors, notamment, il y a les divinités locales, c'est Baal, qui veut dire seigneur, en fait. Il y a Astarté, qui est la lune. Vous savez, c'est dans le corps, enfin, si les musulmans ont un croissant, c'est qu'en fait, c'est jamais qu'un reste de paganisme. Oui, en fait, c'est ça. C'est Astarté, hein, c'est la grande déesse, la maîtresse du ciel, de l'armée des cieux. Puis Dagon, là, dont on entend parler dans l'histoire de Samson. Donc toutes sortes de dieux, de divinités comme ça. Voilà. Et c'est le livre de Josué, le serviteur de Moïse, qui va retracer, en termes plutôt épiques, la conquête. Mais il semblerait qu'en fait, les différents groupes hébreux, donc semi-nomades, hein, qui s'étaient forgés en peuple plus ou moins pendant la sortie d'Égypte, hein, même dans l'arrivée en Canaan, parce que souvenez-vous, la descendance de Jacob part en Égypte, mais est-ce qu'ils étaient tous partis? On ne sait pas trop. Donc il y en a certainement qui ont dû rester sur place, et au retour d'Égypte, en fait, ils ont dû se retrouver. Vous savez, cette curieuse assemblée de Sichem où toutes les tribus se réunissent pour vouer un culte à Yahvé. Ben, on se dit, pourquoi pendant les 40 ans où ils sont sortis, ils n'auraient pas pu faire leur ils semblent déjà, comment dire, confédérés dans ce culte-là. Pourquoi il faut encore, à l'arrivée, faire une nouvelle assemblée? Peut-être tout simplement parce qu'ils ont retrouvé leurs cousins qui n'étaient pas partis et qu'à ce moment-là, ils les ont poussés à se recoaliser avec eux pour former cette fois-ci un peuple avec ceux qui en sont sortis d'Égypte et ceux qui n'en étaient pas sortis. Voilà. Comment ? Oui, parce qu'on dit la descendance de Jacob, mais est-ce que tous les Hébreux de sang, en fait, ethniquement, étaient tous partis avec les fils de Jacob ? Pas sûr, hein, il y a des cousins qui ont dû rester. Voilà. Et alors, donc, en tout cas, ce qu'on croit, c'est que la conquête s'est pas faite de manière aussi épique que racontée, mais que, vous savez, ces cités-États, il y a une cité de quelques milliers d'habitants, puis il y a des campagnes, puis il y a des endroits plutôt désertiques, ou pas très... Voilà. Et puis, ben, en fait, comme les Hébreux sont des semi-nomades, bon, finalement, ils s'installent là où il n'y a rien. Et puis, comme il n'y a pas de police, ni de frontières, ni de douane, ni de... etc., bon, ben, ils circulent, voilà. Donc, probablement, ils ont dû circuler comme des nomades, puis vaguement s'installer comme des semi-nomades dans des endroits pas trop contrôlés. Et c'est comme ça, progressivement, qu'ils s'installent en Canaan. Entre dans les interstices des cités cananéennes et philistines. Les philistins, c'est pas compliqué, ils occupent finalement toute la bande côtière, hein, la plus fertile et celle qui permet de circuler facilement en bateau. Alors, c'est là qu'on nous raconte la prise de Jéricho, qui est un épisode extraordinaire, alors qu'en fait, la ville avait été dévastée par les Hyksos au XVIe siècle, donc déjà... avant, sans que ces remparts aient pu être relevés. On n'a pas les traces archéologiques de reconstruction après cette grande dévastation. Donc, quand même, Jéricho, la ville la plus ancienne du monde. Hein. Enfin, au moins, on ne va pas regarder en Amérique latine, mais Eurasie. Quoi. Et donc, il est probable qu'ils aient enlevé un village qui s'était reconstitué à l'intérieur des ruines de Jéricho, vous voyez, comme à Rome, la Rome de la fin du premier millénaire, c'est en gros 20 000 habitants qui campent dans une cité qui en comptait 1 million. Quand on pense que, par exemple, à cette époque, on faisait paître des chèvres sur le forum. C'était devenu un village. Enfin, Rome, c'était devenu une... Enfin, 20 000 habitants à l'époque, c'est quand même beaucoup. Mais par rapport aux millions du temps de Trajan, donc c'était des gens qui campaient, en gros, dans les ruines d'une cité ancienne. Et là, il est probable aussi que la prise de Jéricho, ça a été la prise d'une implantation qui s'était remise dans les ruines d'une ville qui avait été dévastée lors d'une campagne précédente, sans compter les tremblements de terre, hein, parce que dans ces coins-là, il y a aussi des tremblements de terre qui font tomber les constructions. Donc voilà. Alors les rois locaux ont laissé faire cette implantation parce que probablement elle n'était pas faite avec des millions de gens. Et qu'elle s'était faite, bah, je vous dis, un peu comme une immigration, voilà. Et par contre, ils vont réagir lorsque certaines cités commencent à prendre ces peuples comme alliés. Parce que ça inquiète, vous voyez, ça bouleverse un peu l'équilibre, on peut dire, géopolitique de la région. Et c'est la raison de la campagne menée contre la cité de Gabaon. Alors Gabaon, c'était une cité dont le livre de Josué raconte qu'ils avaient eu peur des Juifs, parce que les Juifs étaient trop puissants, alors des Hébreux, disons. Et ils étaient trop puissants, alors ils ont faim d'être des migrants eux aussi. Donc il y a une délégation de Gabaonites qui sont venus avec des sandales usées et des vêtements poussiéreux, en disant « Ah, est-ce qu'on pourrait faire un bout de chemin avec vous ?» etc. etc. Alors, du coup, Josué, il a dit « Ah, bah oui, c'est des nomades comme nous. » Donc, hop, on les prend. Puis, en fait, c'était la cité de Gabaon qui s'était... Alors, après, à cause de la parole donnée, Josué a été obligé de leur venir en aide quand ils ont été, justement, embêtés par les autres cités-États qui s'inquiétaient que ces groupes de nomades puissent s'appuyer désormais sur une cité avec ses remparts, puis son infrastructure. Et donc, il mène une campagne pour liquider Gabaon, mais Josué arrive, et c'est là que vous avez le ciel, le soleil qui s'arrête, et voilà, puis des gros grêlons qui tombent sur les autres. En tout cas, on a néanmoins repéré la destruction d'un certain nombre de cités de Canaan au XIIIe, XIIe siècle. Donc, qui correspondent quand même à la sortie d'Égypte. Donc, il n'est pas impossible aussi que cette implantation se soit faite aussi contre des... Enfin, que des cités résistaient et que là, pour le coup, elles aient été ruinées. Alors, pas... Mais ça arrivait assez souvent que des cités soient prises par des nomades, hein, par des bédouins un peu plus malins que les autres. Oui, des rizous, hein, comme on disait à l'époque coloniale. Alors... Donc ça, c'est, entre guillemets, ce que j'avais appelé l'entrée en Canaan. Alors maintenant, les tribus. Justement, c'est l'assemblée de Sichem dont on nous parle au chapitre 24 de Josué, où les descendants des 12 fils de Jacob, donc des 12 tribus, se réunissent et se fédèrent sous la bannière de Yahvé, donc du Dieu révélé à Abraham. Alors, les 12 tribus sorties, les descendants des 12 fils de Jacob, peut-être aussi les cousins restés en Canaan, qui finalement trouvent bien de se retrouver. Et il semblerait que Josué représente plutôt les tribus... d'Éphraïm, de Manassé et de Benjamin. Donc les descendants de Joseph, Éphraïm et Manassé, les deux demi-tribus. Alors pourquoi on est passé à ces deux demi-tribus? La tribu de Joseph va être... il y a les 12 fils, hein, donc il y a... Alors je sais pas, il y en a un qui doit disparaître dans l'affaire, je sais plus lequel. Et en tout cas, Joseph est dédoublé en deux. Celui qui... Non, Benjamin et Judas, c'est pas ça. Je ne sais plus. Et donc, il va y avoir deux demi-tribus. Voilà. Et Josué représente la descendance donc, de Joseph. Il s'adresse aux représentants des autres tribus qui n'auraient pas quitté en totalité le nord de la Palestine. C'est ce qu'on pense. Alors, cette ligue cultuelle de tribus, ça peut nous paraître étrange, mais on a un précédent, par exemple, chez nous. Les tribus gauloises renouvelaient leur alliance, justement, à l'occasion d'une fête religieuse dans la forêt près de Chartres, les forêts des Carnutes. Et, en quelque sorte... l'union des tribus était scellée par un culte commun, un acte de culte commun. On en a la trace encore dans la période impériale avec le martyr, justement, de Blandine, Potin et compagnie, parce que c'était les représentants des trois Gaules se retrouvaient à l'occasion d'une fête religieuse et recellaient en quelque sorte, alors même là, si c'était sous le... la domination romaine qui, de toute manière, ne laissait pas trop le choix, mais scellaient à nouveau leur alliance à l'occasion de cette fête religieuse. Et là, on a à peu près quelque chose de semblable, donc une alliance politique qui est scellée par une fête religieuse, par le choix d'une divinité commune. Voilà. Et donc, qui est la divinité de Moïse, qui remonte à la divinité de Joseph, hein, Joseph, donc Éphraïm et Manassé, dont Josué est le descendant. Donc on voit comment cette divinité qui avait été celle d'Abraham, puis ensuite de Jacob, etc., donc de Joseph, puis de Moïse, qui est un benjaminite, si je ne me trompe, hein, se retrouve avec Donc Éphraïm et Manassé, c'est-à-dire le Josué qui finalement, lui, est issu de l'autre tribu. Alors de là à dire que c'était les deux tribus dominantes et que peut-être c'était eux qui étaient partis en masse le plus, c'est pas impossible. Donc tout ça pour vous dire que les choses se sont passées. Alors, bon, là je suis en train de lire ce livre qui est fait par des agnostiques juifs. Mais qui est assez intéressant parce qu'il a une vision purement archéologique, historique des choses. Donc, ce qui veut dire encore une fois que, comme le disait Pie XII, il ne faut pas être dupe de ce qu'on appelle les gens littéraires. Quand ça nous est présenté comme des grandes victoires militaires, parfois la réalité est beaucoup plus
modeste.
Voilà. Mais si les gens y ont vu une grande victoire militaire, ça veut dire que, que la Providence a voulu que les choses se passe comme ça. Elle a voulu qu'il l'emporte quand même. Et alors après, ils mettent les choses un peu en valeur à travers un langage un peu codé, quoi. Langage littéraire. Alors après Josué, on a grand B le temps des juges. Alors les tribus vont se sédentariser dans cette terre qui n'est pas totalement pauvre non plus, grâce à des alliances passées avec les cités-États voisines qui ne sont pas tellement puissantes non plus. Donc tout le monde comprend qu'on a intérêt à s'entendre plutôt qu'à se taper dessus, sachant que les cités-États sont bien contentes d'avoir des semi-nomades assez doués militairement. En général, ils sont toujours meilleurs militairement que les sédentaires, que les paysans. Et pour avoir une alliance défensive avec les Bédouins qui viennent du désert. Vous voyez, ça profite à tout le monde. Alors, dans le livre des juges, justement, on voit un Israël déjà établi, installé, se sédentarisant, qui est aux prises avec des incursions, soit de Cananéens, alors parfois des cités-États qui se méfient, mais qui font des campagnes militaires, soit des tribus nomades venues de l'Est, des Bédouins, quoi, qui viennent rasier les récoltes. Alors, l'historiographie des juges nous donne une interprétation théologique, évidemment, de ces vicissitudes. À chaque fois, alors c'est vraiment, ça crève les yeux quand on lit le livre, hein. À chaque fois que le peuple se détourne de Yahvé, en refusant de mettre de pratiquer la loi, hop, il y a une invasion. Alors ils sont rasiés, ils pleurent beaucoup, ils se plaignent, ils crient vers Yahvé, Yahvé les entend, ils suscitent un juge. Alors le juge souvent c'est un chef militaire, mais pas toujours. Alors le juge va mettre en déroute l'adversaire. Alors, ils sont contents, ils rendent grâce à Dieu, et puis après, ils oublient, et hop, nouvelle invasion, et ils repleurent encore, et ils crient, et on leur envoie un juge, et ils sont délivrés, et ils disent merci, et ils oublient, et ça recommence. Voilà. Et alors, au passage, l'historiographie du livre des juges, elle montre des petites choses. Elle dit, par exemple, que le juge, ça peut être une femme. C'est Déborah, etc. Ça peut être le plus minable du plus minable des clans, de la plus minable des tribus. Donc laissant entendre que c'est Dieu qui finalement a la puissance et qu'il n'a pas besoin d'un instrument extraordinaire pour arriver à ses fins. Puis il y a toujours des histoires. Et puis il y a toujours. Et puis il y a toujours des histoires à quand même pendables, comme par exemple cette histoire où un petit groupe va encercler le camp de l'adversaire en cachant des torches à l'intérieur de cruches. Et puis soudain, ils cassent les cruches, ils font un bruit pas possible, ils agitent leurs torches, et les autres ont tellement peur, ils sont réveillés dans leur sommeil, ils imaginent qu'ils sont attaqués par une armée, et donc chacun tire son épée contre son voisin en croyant que c'est l'adversaire, en pleine nuit noire, et ils se tuent entre eux, et puis comme ça, donc il y a plein d'histoires assez drôles comme ça, dans le le livre des juges. Alors, vous voyez, bon, le système, c'est à chaque fois de montrer que les malheurs proviennent d'une infidélité à la loi. Et si on est fidèle à la loi, eh bien, donc Dieu nous écoute et fait ce qu'on a fait. Alors, donc, tous ces juges, apparemment, on a l'impression qu'ils viennent des tribus du Nord. Voilà, ils coalisent à chaque fois, à chaque danger, pas toutes les tribus nécessairement, mais celles qui sont menacées. Et donc, par exemple, s'il y a, faut quand même se dire que les Redzous des Bédouins, quand même, ça déferle pas sur la totalité de la Palestine. C'est juste un petit endroit. Alors, résultat, peut-être les deux, trois tribus concernées se mettent en commun leurs moyens et puis, repoussent l'adversaire. Visiblement, à l'époque des Juifs, c'est plutôt au nord que la menace venait. Alors, on a Gédéon, par exemple. C'est justement, oui, c'est ça qui est choisi avec l'histoire de la toison. Je me demande si ce n'est pas avec Gédéon qu'il y a les histoires de torches dans les cruches.
C'est dans Gédéon.
Hein, c'est dans Gédéon. Hein. Et puis certains personnages, comme par exemple Samson, font penser un peu à des personnages de contes populaires, un peu comme Hercule. Parce que vous savez, avec deux bras, renverser un palais, un temple entier avec des milliers de gens... Il faut quand même avoir... Voilà, faut être fort comme Hercule.
C'est déjà le cinéma.
Oui, c'est ça, exactement. Ça fait penser à Hollywood. Qui ne l'a d'ailleurs pas raté, parce que ça, je me souviens d'un péplum comme ça.